que vous avez pour l'instant. Asseyez-vous qu'on puisse de nouveau dialoguer. Bienvenue. C'est la séance pour les multiparties, les multiparties prenantes commerciaux. Alors, les non-commerciaux, les commerciaux, le groupe des parties prenantes commerciaux et le bureau des parties qui ne sont pas sous contrat. Je vais donc me taire parce que Marilyn Kane va être en charge, va être responsable de cette séance, complètement responsable. À ma droite, Rob Dextrom et Bill Graham sur le bureau de vos de personnes que vous avez élues. Il est votre élu. Donc, une fois qu'on est sur le bureau, on fait pas trop attention à ces petits détails une fois qu'on est dans le bureau. Mais enfin, bon, vous devez savoir que c'est votre élu. Il y a ici beaucoup d'autres membres du bureau qui sont là. Ils sont plus ou moins dans ce quartier-là, devant. Est-ce que quelqu'un manque? Non? Là-bas, il y a George. Là, il y a Gonzalo. Il y a Sébastien. Merci, Bertrand. Il y a donc un ensemble de sujets que nous avons rassemblés. Je vais en parler très vite et ensuite je vais passer les choses vers Marilyn pour qu'elle nous guide à travers cela. Les sujets qui ont été suggérés par vous, l'intégrité, la déontologie, l'intégrité, les nouveaux GTLD, comment les nouveaux GTLD vont changer les plans du bureau vis-à-vis du NCSO, le travail de groupe du Jazz, ses recommandations. Bon, bien sûr, ça va très vite. De notre côté, en rapport de la recherche du PDG, quelles sont les conditions, quelles sont les qualités qu'un nouveau PDG devrait avoir? Et nous allons aussi parler des grandes lignes de déontologie et les trois messages que nous avons vis-à-vis des groupes commerciaux en respect des nouveaux GTLD. Et aussi, pour notre PDG courant, j'aimerais qu'on passe aux questions du nouveau PDG à la fin. Et Rod pourra ainsi partir et nous laisser avoir une discussion franche sur tous les sujets que nous voudrons discuter. Marilyn. Merci, Steve. On me joint à la table le reste de l'équipe CSG. Ce que je vais faire, je vais désigner Steve Metalis. Steve Metalis, il est là, il est en ligne avec nous. Et nous avons aussi la directeur des ASP avec nous. Le CSG a choisi de partager la direction à travers les trois parties membres au lieu d'avoir un rôle de haut en bas, une structure rigide. Nous travaillons ensemble pour faire l'agenda, donc l'ordre du jour du CSG. Nous ne faisons pas des décisions de politique ensemble. Quand nous décidons de collaborer sur une décision, c'est une décision individuelle à chaque fois, mais c'est renégocié à chaque fois. Contrairement à ce que vous allez lire dans les publications APC, nous vous demandons de bien comprendre les faits comme nous les présentons. Je voudrais faire une présentation formelle aussi au directeur d'un document que nous espérons que vous allez trouver très qui va vous aider à expliquer la structure compliquée du GNSO. Le GNSO, c'est une organisation de soutien. Ce n'est pas un conseil. Il a un conseil, un comité consultatif. Ce comité consultatif est responsable pour les politiques. Nous allons distribuer ça au bureau. Il y a donc une annexe avec les nouveaux officiers, les nouveaux consultants qui ont été élus et toutes les personnes dans l'organisation. Nous sommes heureux d'avoir cette occasion. Comme vous savez, nous avions l'habitude d'avoir un petit déjeuner avec vous. Nous avions l'habitude d'avoir des discussions avec vous. Nous avons changé le format. Nous allons passer tout de suite aux questions. Un d'entre nous va faire une déclaration assez rapide sur chaque sujet et ensuite nous allons aller vers l'audience, vers le public, parce que nous aimerions avoir votre avis le plus possible. Puisque nous allons commencer avec la déontologie, c'est une bonne nouvelle parce que c'est mon sujet à moi. Merci Steve pour avoir fait ça. Je passe beaucoup de temps à passer à ce que j'allais vous dire sur la déontologie. Est-ce que c'est vraiment la déontologie et l'intégrité? I can. Et quelque chose m'est venu il y a 24 heures. Vous voyez, j'avais vraiment du mal avec ce que j'allais dire qui allait pouvoir nous amener à un même endroit, à un même point de vue. Quand j'ai vu toutes les discussions sur les conflits d'intérêts et les refus, je ne suis pas arrivée à tout ce que je voulais parler. Ça ne correspondait pas avec ce que je pensais de ces sujets à propos d'ICANN. Je vais préannoncer que les membres business ont déjà planifié à lancer une examination interne de déontologie d'intégrité dans le BC. Et c'est pourquoi nous allons continuer à avoir de l'impact d'une façon dramatique par les rentrées potentielles d'un nombre de registres, de marques de registres dans la racine. Nous ne savons pas où ça va aller, mais nous savons que ça aura un impact sur nous et nous allons avoir notre propre discussion là-dessus. Nous allons commencer à prendre cette décision au BC et nous allons lancer une discussion. Il y a 24 heures, j'ai pensé pourquoi je suis devenue engagée dans l'ICANN. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Et un nom m'est venu à l'esprit. Pour ceux qui sont avec nous depuis longtemps, quand vous écrivez John Castell dans n'importe quel page internet, c'est l'image de la déontologie et de l'intégrité est vraiment soulignée par les fonctions et l'intégrité et les engagements déontologiques que John personnifiait. Et dans mon opinion, je veux que l'on développe un ADN sur la déontologie, l'intégrité qui nous forme, qu'on le dise, que ce soit notre que l'on soit, c'est vraiment un nouveau domaine. Nous devons être les personnes qui font passer, qui soient des régulateurs, des médiateurs pour cet espace. Je sais que nous n'avons pas toutes les réponses à toutes les questions que vous nous avez posées, mais je pense que je peux dire que, à travers les trois membres, les parties prenantes, ce sujet d'intégrité consomme nos esprits et notre dialogue. Et nous avons beaucoup de questions pour savoir comment ça va se passer et comment nous allons y contribuer, comment la communauté, d'une façon large, va embrasser ce sujet. C'est impressionnant que dans les conversations que nous avons avec vous, nous vous entendons avoir les mêmes inquiétudes. Et je pense qu'à ce moment-là, je vais faire une pause. Je vais demander si quelqu'un dans le groupe de membres pourrait nous donner de plus de détails et des commentaires sur où nous pouvons nous diriger et comment nous allons développer ce modèle de leadership et le mettre en place qui, à mon avis, je pense que n'importe qui pense ce que John avait comme attente à partir de lui-même et d'autres, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux au niveau de la déontologie et de l'intégrité. C'est pas seulement éviter des conflits pour lui. Est-ce qu'il y a des commentaires?
Eh bien, j'aimerais offrir un commentaire personnellement. John, Vince Cerf et moi-même ont eu la chance d'être la première équipe à UCLA qui a utilisé l'ARPANET et qui a donc lancé l'Internet. Et j'ai commencé avec le processus RFC et j'ai travaillé à Washington et j'ai contacté John Postel et c'est comme cela qu'on a est parti à partir de ce groupe, de cette fonction. Et John, véritablement, était un homme très aimable, modeste, qui savait être ferme aussi, une grande intelligence, perspicacité, et vraiment, il représentait, il était le symbole de la confiance et, en effet, de l'éthique. Donc, il a connu un grand développement à partir d'une petite application qu'il avait lancée. Et c'est quelqu'un qui voulait absolument que ICANN soit respecté, soit en confiance, attire la confiance, suscite la confiance. Et dans toutes nos fonctions, à l'ICANN, nous battons pour des idées, mais il ne faut pas perdre de vue que nous servons des personnes, que nous sommes l'association qui sert des personnes. Ce sont nos standards, notre légitimité, et je suis d'accord avec vous. Mais le monde est encore plus complexe aujourd'hui qu'hier. Et donc, les défis sont véritables. Nous avons un modèle multipartite. Il y a des personnes qui ont des intérêts financiers à jouer des rôles importants à l'ICANN, qui ont des intérêts dans l'aspect commercial de l'Internet. Et ça, c'est une caractéristique. Est-ce que l'on veut changer ça? C'est une autre question. Mais nous sommes dans des eaux troubles et complexes. Et je crois que nous pouvons absolument trouver des solutions. Et il ne suffit pas de poser des questions ou d'indiquer que nous sommes inquiets, mais ne vous limitez pas à dire que vous êtes inquiets, mais exprimez vos idées. Oui, je voulais dire que nous recevons des courriels nous disant qu'on ne nous entend pas sur l'Internet. Ça ne fonctionne pas pour le moment. Il y a un problème technique. Oui, donc, lorsque j'étais à la commission stratégique du président, eh bien, on a vu des suggestions pratiques. Et une de ces suggestions, c'était que le directoire avait besoin d'un conseiller indépendant qui pouvait gérer les questions d'intérêt public et de décision éthique. Quelqu'un qui n'était pas responsable du bien-être de l'association, mais qui avait une grande indépendance. Deuxièmement, au niveau externe, il y avait besoin d'un système d'analyse et de revue indépendant du conseil d'administration. Je crois qu'on aura besoin d'un processus à développer avec de meilleures idées, et j'aimerais que le débat aille plus loin et soit plus profond. Quels sont les changements majeurs du World Wide Web, et je parle là de ces nouveaux noms de domaine génériques. Je crois que pour la première fois, nous allons peut-être voir des noms de domaine qui font faillite, des GTDLT qui ne fonctionnent pas. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour nous, pour l'association et pour les éléments constitutif de l'association qui ont plusieurs casquettes? Nous avons bâti quelque chose avec des systèmes de contrôle entre groupes, et je crois que nous devrions parler un petit peu plus peut-être de la part de l'IPC, écouter un petit peu les interventions possibles à ce sujet. Oui, je crois que c'est un thème important pour tout le monde. Je crois qu'on y pense tous, on l'a tous à l'esprit. il va y avoir un changement de l'image même, du visage même de l'Internet et des nouveaux acteurs. Et je crois qu'il va falloir beaucoup réfléchir. Ça va signifier beaucoup. Nos groupes vont être restructurés. Il va y avoir des problèmes qui vont se poser. Il va y avoir des propriétaires de marques et d'enseignes qui vont devenir des registraires. Donc les questions vont se poser d'une manière tout à fait prégnante. Donc quelqu'un du BC, du groupe, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, Bill Smith également veut prendre la parole. Oui, c'est Steve McDowell. Oui, je vais vous donner la parole. Je sais que vous êtes au niveau externe, vous nous appelez de loin. Donc moi je parle en mon nom personnel, Bill Colwell, et comme vous le savez, j'ai écrit un long article sur le sujet, et Boston Kin a fait deux réponses à cela, et je soutiens l'ICANN, je soutiens le modèle ICANN et le modèle multi-acteur. On en parle dans le Washington Post au mois d'août. Il y a des articles qui sont publiés. Il y a une énorme communauté qui ne travaille pas avec l'ICANN, qui comprend mal l'ICANN. Il y a beaucoup de défis à relever par la suite. Et je n'ai pas de suggestions spécifiques pour régler les problèmes de conflit d'intérêts, mais après avoir lu et rédigé certains de ces articles, je crois qu'on a besoin d'un groupe d'experts qui se pose la question du modèle unique de l'ICANN, avec qui mêle les secteurs publics et privés. Je crois qu'il faut que l'on revienne sur les conflits d'intérêts possibles. On ne doit pas couper les cheveux en quatre, mais il faut très souvent éviter l'apparence des conflits d'intérêts. C'est un petit peu trop parfois ce qu'a fait l'ICANN, s'inquiéter de l'apparence, des impressions. Et donc je crois qu'on a besoin d'une source d'experts qui fasse une analyse et qui nous donne son avis à ce sujet. Oui, Steve? Oui. Oui, vous avez demandé des aspects précis. Moi, je vous conseillerais de lire les commentaires que nous avons reçus lors des commentaires publics concernant les changements des textes statutaires de l'ICANN ces dernières semaines, du règlement intérieur de l'ICANN. Il y a des changements qui sont proposés. Donc, ça fait pendant 3 ou 4 ans que l'on propose que l'on... Les personnes qui se récusent et qui n'utilisent pas leur droit de vote au niveau du directoire, je crois que c'est parfois difficile pour certaines personnes de se récuser, parce que cela donne justement l'impression qu'il y a des conflits d'intérêts nombreux qui existent. Donc, il y aura peut-être besoin de restrictions avec au niveau des rapports entre des membres du personnel et des dirigeants de l'ICANN, des membres de directoire. Et il y a des circonstances dans lesquelles le directoire n'est pas en mesure d'être toujours un arbitre impartial des situations de conflit. Et en effet, là, il serait utile d'avoir un audit indépendant à ce niveau. C'est très complexe, j'en suis bien conscient, mais j'encouragerais le directoire, et je crois qu'on l'a entendu de la part de ce qui a été dit ce matin, il y a besoin d'une déclaration forte provenant du directoire. C'est le moment, véritablement, il est vrai, de régler ces problèmes rapidement avec un calendrier très agressif. Oui, merci beaucoup. Nous travaillons d'une manière très agressive. Bruce Tonkin est à la tête de la gouvernance du directoire et nous revoyons les questions d'éthique au directoire. Bertrand a levé la main également. Oui. Donc, peut-être que Bill va peut-être intervenir en premier. Ensuite, on passera à Bertrand. Vous voulez répondre à cela ? Bill, je vais vous donner la parole. Oui, Bill Smith de PayPal. Oui, la suggestion que j'offrirais, c'est d'aller vite, d'agir rapidement. Beaucoup d'entre nous travaillent pour des entreprises qui ont des standards de conduite professionnelle. Et si ICANN doit avoir également des standards de conduite, des normes, je ne les vois pas sur le site web, je ne les ai pas trouvées. Donc on a besoin de documents à ce niveau. Et je suggère également qu'il y ait des experts qui viennent nous aider. Et il y a beaucoup d'organismes Internet qui ont donc des lignes de conduite pour gérer les conflits d'intérêts. Et je crois qu'on peut retirer beaucoup quand on regarde les lignes de conduite justement gérant les conflits d'intérêts dans les entreprises. Je crois que tout est là, on peut s'en inspirer et ce sera absolument utile. Oui, bonjour. En termes généraux, une remarque. Les problèmes que l'on voit émerger aujourd'hui et en ce moment proviennent du fait que nous sommes en transition avec le nouveau programme des GTLD qui fait évoluer les responsabilités de l'ICANN dans un territoire et un domaine où les fonctions de régulation ou quasi-régulation, ce rôle de régulation attire donc l'attention sur ces questions. Et le directoire est tout à fait conscient de cela. Nous voyons tout particulièrement la distinction entre les conflits d'intérêts lorsque les personnes sont au directoire et la situation de porte battante qui pourrait exister également est prise en compte. Mais j'aimerais donc souligner une question de la communauté. Le problème est le suivant. Le modèle multi-acteur est basé sur la participation de personnes qui proviennent d'horizons très divers. Des gens très techniques, des universitaires, des hommes d'affaires, et ainsi de suite. Et la composition du directoire doit être similaire. Et le problème que nous avons, c'est que si nous allons aux limites maximales, là, eh bien, il y a des personnes qui ne pourront plus siéger au directoire. Et soit on nomme des personnes qui ne viennent absolument pas des communautés, donc on perd la compétence au directoire, ou bien on a d'autres problèmes, un manque d'expertise au niveau du directoire. Donc c'est très difficile de choisir des personnes et les horizons des personnes qui doivent être au directoire. Donc c'est un débat difficile, avec Alak, on en a parlé ce matin d'ailleurs. Est-ce que nous devrions envisager ou prendre en compte les pratiques qui sont effectuées lors des fonctions de régulation? Est-ce que nous devrions faire en sorte que les personnes du directoire sont totalement indépendantes et n'ont pas d'autres activités commerciales pendant le temps du mandat au directoire? Ça, c'est un changement énorme pour notre modèle et c'est très provocateur. Mais il y a une logique là-dedans. C'est un choix difficile. Mais, deuxièmement, il y a un impact évident du nouveau programme des GTLD sur la structure du GNSO. Et je ne veux pas poser la question ici, mais comment à la communauté dans son ensemble et toutes les parties prenantes vont-elles débattre de cet impact potentiel et quels problèmes vont donc être soulevés à ce niveau? Est-ce qu'il va y avoir un groupe d'études? Est-ce qu'il va y avoir des réunions lors de la prochaine réunion de l'ICANN au Costa Rica? Est-ce qu'il va y avoir un process précis? On ne peut pas continuer, on ne peut pas avancer, mais je crois qu'il y aura un impact fort dans les mois à venir. Avant que nous donnions la parole à ces deux membres du directoire, j'aimerais dire quelque chose. Dans sa carrière, John Postel s'est détourné de l'Internet. Il a coupé l'Internet. Personne n'a remis en cause ses motifs. J'aimerais mentionner cela. C'est un exemple. Eh bien, nous établissons des règles. Il y a une action prise par quelqu'un qui a frustré beaucoup, qui a rendu les gens très nerveux, mais personne ne s'est dit quelles sont les raisons pour lesquelles il fait ça. Oui, je ne sais pas s'il a arrêté l'Internet, mais en effet, il a pris une décision qui a inquiété beaucoup de monde. Chérine? Oui, j'écoute les personnes s'exprimer sur les portes battantes, sur l'éthique. Beaucoup de suggestions ont été faites. Il me semble que si nous adoptons toutes ces suggestions, et j'ai beaucoup écouté Steve et ses suggestions intéressantes, nous essayons d'améliorer le modèle que nous avons aujourd'hui. Mais Bertrand pose la question dans des bons termes. Vous avez mentionné le fait que nous sommes un quasi-régulateur, pas véritablement régulateur, mais peut-être qu'il faut réfléchir à cela. Qui sommes-nous? Que sommes-nous? Si nous sommes une agence de régulation, eh bien là, la constitution du directoire et les nombres d'années de mandat au directoire devraient être totalement différents, parce que l'on voit les choses sous un angle totalement divers. Là, pour le moment, on est en train simplement d'améliorer qui nous sommes. Mais la question est de savoir qui nous sommes. C'est essentiel. Est-ce que nous sommes là simplement pour la stabilité et la sécurité du système DNS, ou bien est-ce que nous sommes l'agence de régulation de l'Internet? Donc, si nous sommes un régulateur, on doit travailler différemment. Je ne suis pas juriste et je ne veux pas jouer sur les mots. Et John Jeffrey disait régulièrement quelque chose, que les régulateurs ont le pouvoir de la loi. L'Internet n'a pas ce pouvoir. Et il y a plusieurs aspects à cela. Ce ne serait pas aussi simple que de changer nos règles pour devenir un régulateur. Il faut avoir la loi derrière soi et avec soi et la faire appliquer. Donc, est-ce que nous avons des solutions totales pour les problèmes qui se posent? Donc ça, c'est bon, on ne va pas lancer le débat. Je voulais simplement attirer un petit peu l'attention et demander un petit peu de prudence par rapport à cela. Eh bien, moi, j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit. Et il me semble que on parle en public de cela, et c'est très intéressant, c'est très important. Et je crois que nous parlons de ce thème pour la raison simple. Nous sommes avec un modèle multi-acteur. Lorsqu'on est au Conseil de sécurité des Nations Unies, cela a un impact fort sur nous tous et la vie de nombreux peuples. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il parle de conflit d'intérêts lorsqu'il commence à envoyer des armées dans certains pays. Ils sont là pour se protéger et les intérêts nationaux qu'ils représentent. D'une manière similaire, je crois qu'il est très clair que lorsque l'on fait du commerce, on est là pour protéger les intérêts commerciaux de nos clients, pour faire des profits, c'est très clair. Là aussi, lorsque vous avez les deux éléments ensemble, Marilyn le disait, et quel est l'intérêt public au sens large? Qu'est-ce qui dépasse tout cela et qui est dans l'intérêt de tous? C'est la question qui se pose. C'est le point saillant. Nous devons bien comprendre, tandis que nous avançons dans notre dialogue, nous parlons d'une association qui, à la base, a été transformée d'un point, il y a de cela 5-10 ans, où il n'y avait pas de problème qui se posait, on parlait de quelques personnes. Maintenant, nous parlons d'une croissance exponentielle, peut-être d'un budget de 200 millions de dollars. Alors qu'on était tout petit il y a seulement 5 ans, je crois que il faut qu'on réfléchisse de très près à cela. Parce qu'on attend beaucoup de nous, nous avons beaucoup reçu, on attend beaucoup de nous, et je crois qu'on doit regarder de très près ce problème. Nous avons un travail énorme fait par des volontaires, un travail laborieux, difficile, et l'ICANN doit réfléchir à cela, un système de compensation peut-être éventuellement. Là, cela permettra d'élever le niveau et les demandes par rapport aux personnes qui travaillent.
Tommy Hans, directeur de ESP, est-ce que vous voulez parler? Je voulais juste soulever un point. Il avait mentionné qu'il y a besoin de regarder à l'impact des GTLD, des processus GTLD sur la base de membres. On va peut-être dire la même chose, mais je voulais juste dire qu'on doit regarder l'impact du processus sur les opérations totales du GNSO. C'est ce qui devrait se passer plutôt que plus tard, quoi, en fait. Je voudrais vous rappeler, quand on dit GNSO, on parle de GNSO, ça inclut notre comité consultatif. L'autre chose que je voulais dire, c'est à cause de l'ELAC est un groupe consultatif qui nous affecte aussi. Nous avons besoin d'incorporer cela. Les implications sont encore plus larges que le GNSO seul. Cela aussi adresse le CNSO. CCNSO. On devrait bouger à un autre sujet. Je pense qu'on doit assumer qu'on a beaucoup de travail à faire dans ce domaine encore. Nous avons des limites de temps que nous devons respecter aussi. Nous avons encore 20 minutes. On a créé une formule que j'espère que vous allez accepter. Nous vous aimerions... la question, c'est quels sont les trois problèmes que nous avons avec le groupe des multiparties et que ICANN devrait adopter dans le travail qui est fait pour le développement des politiques. Nous sommes assez concernés sur ces sujets en ce moment. Le bureau a fait une décision. Des fois, je parle à mon opinion, mais le bureau a fait une décision. C'est un peu comme si on travaillait dans un voisinage qui est dangereux. Et d'avoir des mauvaises expériences, c'est quelque chose que le bureau doit comprendre et prendre au sérieux. Je voudrais dire que, quels que soient les objectifs, que ce qui est développé par le comité consultatif du bureau, ceux d'entre vous qui n'étaient pas là doivent savoir aussi se rappeler que, et les autres doivent comprendre que c'était une restructuration qui a été imposée. Ça ne va pas forcément accomplir les objectifs que vous aviez, à moins que vous ne soyez pas satisfait, à moins que vous soyez satisfait ou dans les décisions et la capacité pour les groupes de travailler ensemble pour atteindre les mêmes objectifs. Donc, c'est vraiment une grande priorité pour nous d'être capable d'adresser cela, car nous sommes ici pour développer parmi d'autres choses que nous devons faire au niveau des politiques, Et toutes les faits qui sont basés donc sur ces politiques qui doivent être balancées, ça c'est mon premier problème. Je vais aller vers Brian. Brian, oui, Marilyn. Un autre problème que nous voulons amener, que IPC veut amener devant la table, c'est que, à cause du temps qu'on a aussi, donc c'est difficile, mais c'est l'inhabilité de finir le travail. Nous avons beaucoup de sujets que nous avons poussés, que nous avons mis sur la table. Par exemple, sur le RAA, nous sommes encore coincés, nous sommes bloqués et nous avons des problèmes aussi au niveau du processus de développement des politiques. Le bureau doit y faire attention et nous devons tous faire très attention. Est-ce que vous avez d'autres représentants du CSG qui veulent parler sur nos problèmes principaux? Je sais que Steve veut faire un commentaire, mais je voulais aller là-bas en premier et revenir vers vous. Steve, mettez-moi dans la queue, s'il vous plaît. Donc, Steve Metalis, ensuite. Je voudrais faire un point. Je suis Zahid Jamil. Les structures n'ont pas fonctionné jusqu'à présent. On n'a pas pu faire le travail sur le comité du GNSO. Après, ça ne va pas comme, ça ne se passe pas comme c'était, comme c'en était l'intention au départ. Il y a des changements qui sont faits. Et en deuxième, il y a toujours les choses qui passent à travers les comités consultatifs sont bloquées. Il y en a une part qui dit on va pas le faire. Il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas de discussion. C'est juste simple. On nous dit bon, désolé, ça ne va pas passer. En deuxième, on n'a pas d'informations. Et en trois, en fait, beaucoup de gens à qui on amène des choses au conseil et des motions ne sont pas passées. Il y a des choses qui ne passent pas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va en tirer. Et il y a des résultats, on ne sait pas quels résultats quels vont être les résultats. Et à la fin, on ne sait pas comment. Ça se passe par GNSO, donc on se dit, bon, on va amener ça dans un autre forum. Est-ce qu'il y a vraiment trois différents domaines qui sont vraiment inquiétants au niveau du GNSO? Pour soutenir le commentaire que Brian a fait pour l'accord d'accréditation, c'est pas seulement une inquiétude pour nous, c'est partagé à travers de toute le bureau des non commerciaux et de toutes les parties prenantes. Et si vous avez contrôlé vérifié les réunions entre les conseillers GNSO et les bureaux consultatifs, vous verrez que c'est une inquiétude à travers beaucoup de gouvernements. Quand il s'agit des choses qui ne fonctionnent pas dans les accords, excusez-moi, au niveau des registraires, des accréditations, des accords d'accréditation de registraires, il y a un document qui a été fait apparemment à votre demande, la demande du bureau, par le personnel de la CAN qui représente des façons possibles de rassembler, d'arrêter ce blocage et d'atteindre des progrès malgré ce blocage. Il a dit comme il y a beaucoup que ICANN peut faire sans avoir un barrage pour approuver les accords d'enregistrement, pour approuver les accréditations. Excusez-moi, l'audio était très mauvaise pour moi. Je m'excuse. Nous allons faire des commentaires généraux. Je ne voulais pas faire de commentaires sur les détails de la controverse sur les accords d'accréditation des registraires parce que je sais qu'il pourrait y avoir des problèmes et je sais qu'il y a des moments où ça passe mal. Mais nous allons parler. Ce n'est pas OK d'avoir pour nous des blocages ou des endroits où on est coincé et qu'on ne fasse pas de progrès. C'est une recette pour perdre la face, pour perdre la capacité de fonctionner et nous n'allons pas pouvoir servir les besoins de notre communauté. Mon opinion est que la responsabilité du bureau, on n'est pas supposé de faire des politiques et de faire le travail que les individus, les organisations et les autres comités peuvent faire. On a des responsabilités de surveiller que les processus travaillent. Mais la tension dans le passé à propos du rôle du bureau ou du directoire, c'est qu'on doit voir la justesse du processus. Je veux vous clarifier les choses que, à mon opinion, le directoire a une autre responsabilité, de nous assurer que nous faisons du progrès, que nous allons de l'avant. Et que si nous n'allons pas de l'avant, on doit se poser la question pourquoi. Et pour voir si peut-être notre structure est cassée, que les processus ne sont pas bien utilisés. Un autre élément de cela, c'est que, pour prendre en écho ce qui a été dit aujourd'hui, c'est que les gens qui sont inclus dans ces processus doivent sentir qu'il y a de la justesse. Si les gens qui nous font des rapports et qui nous disent que les autres parties ne jouent pas d'une façon juste, nous avons au moins en surface une déclaration claire que quelque chose est cassé. Un autre principe général, c'est que quand on fait marcher un processus qui est une opportunité de plainte ou de litige, quand les conflits arrêtent, quand il n'y a plus de complaintes, ça indique que le problème a été réglé ou que les gens ont abandonné, ne se plaignent plus. Donc c'est important de distinguer entre ces deux cas. Une fois, c'est soit une réussite, soit une défaite automatique. Donc ce sont... Je voulais donc indiquer que nous avons connaissance et nous sommes sensibles à mon idée. J'espère que nous allons laisser ça sur le devant et que nous allons y porter attention. Le directeur va y porter attention, nous allons y passer du temps. Je ne voulais pas faire des déclarations dramatiques, mais mon inclination est que nous devons faire des changements dans ce que nous acceptons au sein de notre organisation. Et nous devons avoir des normes qui soient plus élevées. Et nous devons nous définir et nous mettre dans une... Si nous ne sommes pas dans une position efficace, nous devons examiner cela et changer le jeu. Je vais demander de parler sur le prochain sujet. Je vais y passer parce que, rappelez-vous, nous avons un sujet dernier qui sera le nouveau PDG. Maintenant, nous allons donc parler de... un des trois messages principaux que les parties prenantes, ou du moins ICANN, devraient faire passer en ce qui concerne les nouveaux GTLD. Et je vais donc passer la parole à d'autres. Nous allons parler avec Steve, qui a un commentaire à faire que le BC a développé. Je vais concentrer sur les connaissances, sur ce qu'on sait qui va arriver. C'est très important pour nous au niveau CSG que la communication des nouveaux GTLD, des programmes des nouveaux GTLD, que la concentration ne soit pas seulement faite sur comment ça s'applique ou comment on le fait marcher, qu'on fait marcher le registre, mais aussi leur dire et les informer sur les changements qui vont se passer. Le monde va avoir une nouvelle allure. C'est un message intéressant, mais on ne va pas comprendre que les logiciels vont être un peu confus, qu'ils ne vont pas reconnaître les extensions. Les utilisateurs et les enregistrants sont très différents des fournisseurs qui veulent être soi-disant fournisseurs. Les plans de communication du bug du millénium, le Y2K, le Y2K, les gens éduqués qui réparaient les choses au niveau technique, qui nous disaient qu'il y a des choses qui ne marcheraient pas, que les pendules seraient remises à l'heure. Il y avait plein de choses complexes. C'était toutes ces choses qui ne devaient plus fonctionner. Nous devons donc éduquer les utilisateurs. Des grands, grands nombres de nos membres potentiels, des utilisateurs de business, des nombres massifs de petites compagnies à travers le monde qui ne veulent pas être des registres, mais ils veulent utiliser l'Internet et les nouvelles extensions pour développer des solutions commerce. Et donc, le plan de communication doit construire une certaine connaissance, faire passer un message, pas forcément maintenant dire ce qu'on est, mais... ce que tous ces changements vont être, pas seulement la vôtre. Je dis ça, on le dit, mais on aime se répéter, donc on pensait qu'on pourrait le dire encore. Je pense que Sébastien, je vais vous passer la parole et ensuite à Steve. Steve, à vous. Merci. C'est pour les membres business. Ce que voulons nous dire, il y a quatre domaines qui posent le plus de risques sérieux au succès des nouveaux GTLD. Une défaite pourrait mettre en danger l'institution ICANN et le modèle multiparti. Les promesses ont été faites au niveau des gouvernements globaux et les parties prenantes dans quatre domaines. Les gouvernements, on leur a dit que les IGF, qu'ils ont des concerns, qu'ils sont inquiets au niveau des nouvelles applications, au niveau sensibilité culturelle, vous aurez, et au niveau religion, que vous aurez l'opportunité, l'occasion d'avoir des objections et vous aurez des mises en garde à penser. Ça lira toutes les promesses qui seront faites par les applications. Il y aura des termes d'utilisation, des termes de service pour les registrants. Et à ICANN, quand je ne pourra pas mettre en place ou en, mettre renforcer, donc renforcer ces accords. On dit au gouvernement que qu'ils peuvent compter sur ces promesses, mais qu'ils peuvent faire des objections, mais ces conditions, ils pourront les renforcer, celles qu'on leur a données. Pour les utilisateurs, pour les milliards d'utilisateurs dans les économies émergentes et les prochains milliards de personnes dans beaucoup d'endroits, dans plein de langues, avec des textes différents, en latin, en anglais. On a beaucoup de choses possibles à faire pour ne pas éviter qu'ils soient déçus. Ils vont avoir des nouveaux TLD dans des langues, dans des communautés de langues différentes. Et il faut garder dans l'esprit que pour atteindre le marché pan-arabe et les scripts TLD pan-arabes, ça ne va pas suffire pour visiter 22 pays arabes et 22 différents CCTLD. On ne va pas avoir assez de IDN, GTLD. Il faut qu'on encourage une façon de donner de meilleures incentives et de remises à ces applicants. Donc, il faut protéger les clients contre la fraude. Nous avons dit que nous allons désigner des nouveaux mécanismes de protection, des nouveaux services pour protéger les marques déposées. Mais si ça marchait très, très bien, parfaitement, si ça marche parfaitement, ça veut dire qu'ils peuvent tout fermer le lendemain, si vous voulez. Donc, on pourrait avoir tous les systèmes en place qui vont arrêter le cyber-squatting, mais si chaque TLD pourrait faire démarrer ces problèmes, ces systèmes. Enfin, en numéro 4, c'est en respectant les forces de l'ordre des gouvernements et les gouvernements, il ne faut pas casser les promesses qu'on fait à ces gens-là parce que ça pourrait nous causer des problèmes. On a donc un accord avec une code de conduite qui a déjà été faite et on montre ce code de conduite et puis tout le monde doit le signer s'ils veulent avoir un nouveau GTLD, mais on a l'occasion de faire la même chose avec les registraires aussi. Nous avions fait un nouveau accord avec les registraires. Il faut qu'on continue là-dessus. Le BC est avec vous. Nous sommes là pour les nouveaux TLD. Nous savons que nous allons faire un gâteau pour ces parties, pour ces gens. Mais nous espérons ne pas casser la maison sur le chemin. Nous avons deux ou trois communs. Nous allons passer du groupe de travail Jazz. Après, je vais passer à Sébastien et ensuite Brian pour les commentaires finaux. Et après, nous allons essayer d'avoir 2 minutes pour le nouveau PDG, la recherche du nouveau PDG. Je voulais pas répondre à ce que Marilyn demandait, mais je voudrais aussi dire que je pense que vous avez raison. Nous devons informer les utilisateurs, soit business, soit individu, durant le processus. Je ne sais pas si nous devons le faire maintenant. Nous avons pour le moment à informer l'applicant potentiel, le demandeur potentiel, et de l'informer pour qu'il soit capable de venir dans le programme s'ils le veulent. Mais la prochaine étape dans la communication est comment ça sera fait. ce sera d'informer l'utilisateur final, qu'il soit business ou individu. C'est important, mais je ne pense pas qu'on doit mélanger le message aujourd'hui. Nous discutions faire la même chose. Hey, nous avons un processus de multipartite pour mettre un programme en place où c'est une bonne organisation parce que nous faisons beaucoup de travail. Nous voulons leur dire que nous avons un bon programme et ils ont besoin d'être engagés. On veut les informer, les utilisateurs finaux. C'est trop de messages. Il faut qu'on concentre sur un message. Et c'est le programme d'aujourd'hui. Nous avons besoin d'avancer vers la prochaine étape et d'informer l'utilisateur final. Je voulais aussi dire que les quatre points que Steve a soulevés, nous avons besoin de mettre ça en place et voir comment nous pouvons répondre tout ça collectivement, pas seulement le directoire. Nous avons besoin de travailler là-dessus. Et je suggère que nous collectons tous ces éléments de tous les membres et le mettre quelque part et rassembler tout ça pour voir comment on va faire les choses. On ne peut pas continuer à dire où on dit toujours c'est là, mais on ne travaille pas dessus. Merci. Je vais aller voir Rod sur les communications et ensuite je vais aller sur Massa.
Donc, Steve, merci d'avoir partagé tous ces points, des remarques sur la communication. Et j'aimerais donc vous remercier sur un excellent document que vous avez conçu. Et il me semble que le plan de communication est extrêmement important pour s'assurer que l'association connaisse bien l'existence du nouveau programme du GTDLD pour poser des dossiers de candidature. Et l'information doit vraiment être diffusée très largement. Et ce que j'aimerais que vous preniez en compte, c'est que vous avez vu ces programmes et ces documents d'une seule page qui définissent les GTDLT, le NSEC. Donc, on peut travailler ensemble à concevoir une page pour les petites entreprises dont vous avez parlé et pour tous les membres qui jouent un rôle important et qui n'ont pas de gros moyens éventuellement pour lancer des nouveaux GTDLT. Donc, je crois que ça, c'est une bonne chose et c'est tout à fait positif. Donc, je crois qu'on va parler de la manière de travailler à cela. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes avec les nouveaux GTDLT et que l'ouverture de la période de dépôt des dossiers de demande arrive très rapidement. Donc, on a des recommandations de JAS qui ont été effectuées et ça fait partie de la mise en œuvre de ce nouveau programme. Ce dont on a parlé dans la réunion SPC, c'est que le soutien des candidats est bien. C'est bien vu. Réduire pour les personnes qui n'ont pas les moyens de payer ces sommes importantes pour les dossiers des GTDLD. Donc, il y a à la fois un danger d'exploitation du système qui existe. Il y a des personnes qui peuvent se faire passer pour des personnes nécessiteuses provenant de pays moins avancés et qui, par ce biais, vont être exempts de ces droits d'entrée. Et donc, ça, c'est un problème qui peut éventuellement se poser. Je crois que il faut voir les critères d'éligibilité des dépositaires de dossiers de demande. Donc, ça, c'est un point essentiel. Et le conseil d'administration, le directoire, doit prendre cela en compte de près. Donc, je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais nous devons parler du nouveau PDG. C'est important. Donc, il nous reste une minute. Donc, vraiment, je suis désolé. Mais je vais parler du nouveau PDG et je vais demander... de passer à cela, j'aimerais dire qu'un des problèmes qui se pose, qui est très important, au niveau du nouveau programme des GTDLD, C'est une question de mise en place, en effet, des protections, la question de protection des droits qui se pose, et tout le monde est bien conscient qu'il y a beaucoup de compromis qui ont été effectués pour inclure tout le monde, et je veux m'assurer absolument que la mise en œuvre se passe bien pour les dossiers de candidature. Oui, je vais maintenant passer la parole à Jeff Brueggemann, qui va parler au nom de l'ICC, et le thème est la recherche d'un nouveau PDG. Il y a un forum public à ce sujet, il y a eu des commentaires publics, et je ne vais pas tout répéter, mais je peux donner plus de détails, mais je demandais à Jeff de dire quelques mots. Oui, merci beaucoup. Je voulais brièvement résumer les commentaires qui ont été effectués. Nous apprécions le processus et l'engagement de la communauté. Nous apprécions la transparence. C'est très important pour le choix d'un nouveau PDG et le président de l'ICANN. Nous avons eu quelques commentaires sur les critères à respecter et qui notent bien que ICANN est un tournant de son existence. Il nous faut vraiment des attributs très forts pour un nouveau PDG au niveau de la gestion interne et au niveau de tout ce qu'il y a au niveau externe à gérer également. Donc il y a ce système multipartite qui existe, qui doit être respecté et qui doit être poursuivi, et l'importance également au niveau externe de représenter l'ICANN, d'être un ambassadeur de l'ICANN auprès des gouvernements et des universités, du monde académique et ainsi de suite. Donc auprès de la société civile également. Et la gouvernance de l'Internet est une grande question qui se pose d'une manière de plus en plus accrue dans le monde, de plus en plus aiguë. Oui, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ceux qui font partie des multi-acteurs, qu'avez-vous à dire au sujet du choix du PDG de l'ICANN? Oui, très rapidement, la commission de recherche s'intéresse beaucoup aux opinions de chacun concernant les caractéristiques du nouveau PDG, quelles doivent être ses capacités, ses qualités. Nous avons une liste CEO Search 2012@ICANN.org. Vous pouvez nous écrire et nous dire ce que vous en pensez. Oui, je le répète, envoyez-nous vos commentaires à CEO Search, SEARCH 2012@ICANN.org. Donc, je n'ai pas d'autres commentaires. Je vais faire deux commentaires personnellement pour vous dire à quel point nous apprécions l'opportunité qui nous a été donnée de travailler avec vous, et nous voulons continuer à peaufiner cela. Il faut que ça soit utile à tous, à tous les membres. Cela nous permet d'expliquer aux entreprises pourquoi c'est si important de participer aux réunions de l'ICANN, que ça soit en ligne ou bien sur place. C'est très important pour nous, donc merci de votre participation. Et deuxièmement, ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter à repartir à vos comportements très sociaux au Costa Rica. Nous serons tous présents au Costa Rica, donc j'espère qu'il y aura des manifestations sociales. De commentaires? Je vois les détails de la complexité, les problèmes de calendrier qui se posent. Diane essaye de me trouver des rendez-vous. On n'a pas assez de temps pour tous les rendez-vous. C'est vraiment très complexe. C'est vraiment des calendriers extrêmement chargés qu'on a du mal à contrôler. Et les interactions ici, en effet, sont très importantes. C'est un nouveau format que nous avons. Nous sommes très intéressés au niveau du directoire par des interactions significatives, et nous voulons que ça soit substantiel. Nous voulons que ces engagements soient utiles et nous voulons bien utiliser notre temps à bon escient et nous apprécions véritablement les discussions très franches que nous avons tous eues. Donc, j'aimerais vous remercier pour cela.